Je vais essayer de faire mentir Manu en n'étant pas trop long. On verra. Oui, non, mais j'admets que c'est pour moi un exercice difficile. Je vais quand même prendre le temps de dire que l'introduction que Manu a faite et le parallèle avec notre actualité m'a fait, enfin avec l'actualité, tout le monde n'est pas forcément passionné de foot, me faisait penser à cette histoire justement d'un passionné de foot qui, parce que si vous avez suivi la Coupe du Monde, vous savez qu'il y a des matchs à peu près, pas seulement le soir mais aussi l'après-midi, et donc je pensais à cette histoire bien connue. D'un gars qui est au boulot et qui donc demande à sa femme de lui enregistrer le match parce que ça l'intéresse de voir le match, mais il ne peut quand même pas quitter le boulot 3 heures plus tôt. Et donc il se précipite à la sortie du boulot pour rentrer chez lui en prenant bien soin de fermer l'autoradio pour pas malencontreusement apprendre le résultat du match avant de l'avoir vu. Et dès qu'il ouvre la porte, il dit à sa femme « T'as pas oublié de m'enregistrer le match ?» Elle dit « Non, j'y ai pensé. » Et d'ailleurs, on a gagné. Bon, c'est pas grave, je vais le regarder quand même. On est dans cette situation-là, nous, parce qu'on est prisonnier du temps, on regarde en quelque sorte en différé un match qui est déjà joué et déjà gagné. Et c'est de ça que Manu nous a parlé tout à l'heure. S'il y a un parallèle à faire, c'est ça, c'est que nous, on vit une vie dans un combat auquel on assiste, mais dont on connaît le résultat. Et le texte de l'Apocalypse qui nous a été lu tout à l'heure, c'est la fête qui, en dehors de ce temps dans lequel nous vivons, et dont, d'une certaine manière, nous sommes prisonniers, la fête qui a lieu avec nous pour fêter la victoire. Et donc, autant... C'est vrai que ça m'agacerait un peu de regarder un match en connaissant le résultat parce que ça perd un peu de son intérêt, bien que ce soit sympa de voir comment les équipes se comportent et comment les uns attaquent et les autres défendent. Autant là, je suis plutôt rassuré de savoir comment ça se finit. Ce que nous vivons, nous en connaissons déjà l'issue. La victoire. Et la victoire absolue, et la fête qui ne s'arrête jamais. Voilà, c'est ce que m'inspirait le parallèle pertinent que Manu faisait. Voilà. Alors, si je commence comme ça, évidemment, ça va durer plus longtemps. Tout le monde le sait ici, puisque je ne vois que des habitués, cette année, c'est les psaumes, d'accord ? Donc j'ai été embarrassé, c'est vrai, pour choisir un psaume, parce que je n'ai pas le talent de Luc, donc je n'ai trouvé aucun psaume qui parle de foot. Et donc en désespoir, je me suis dit, on va laisser, non pas le hasard, mais une certaine logique, choisir à ma place. Et donc je me suis dit, le premier psaume qu'on n'a pas encore étudié, ça sera le mien. Et donc du coup, ça m'a obligé... À regarder, alors effectivement, c'est le psaume 10, parce qu'on a déjà étudié les 9 premiers, mine de rien. J'ai évidemment regardé dans tout ce qui avait été présenté. Et donc, le premier qu'on n'a pas encore étudié, c'est le psaume 10. Donc, je vous connais tous, je sais que vous avez tous des Bibles, entre guillemets, protestantes, parce que le psaume 10, c'est le psaume 10 dans les Bibles hébraïques, mais c'est la deuxième moitié du psaume 9 dans les Bibles grecques et latines. Bon, mais ici, personne n'a de Bible grecque ni latine. Et donc, c'est pour ça que dans vos Bibles, à partir de 10, il y a 10 entre parenthèses 9, c'est-à-dire deuxième partie. En fait, ce qui est le psaume 10, c'est la deuxième partie du psaume 9 dans la Bible grecque, donc celle qu'on appelle la version des Septante, parce que 70 avant à Alexandrie, etc. Et donc, il y a deux psaumes qui sont divisés en... Enfin, qui sont... Il y a deux fois des psaumes qui, dans la Bible hébraïque, en font deux, et qui, dans la Bible grecque et du coup dans la Bible latine, la fameuse Vulgate, dont vous avez peut-être entendu parler, n'en font qu'un. Mais comme il y a aussi l'inverse, ça se rétablit, et finalement, le nombre de psaumes est le même dans toutes les Bibles. Mais d'où les numéros entre parenthèses. Bref, voilà, donc le psaume 10, qui est le premier qu'on n'a pas étudié et que je vais lire. Voilà, je l'ai affiché là pour que vous puissiez suivre. Alors, c'est dans une version que vous ne trouverez pas dans le commerce, donc ne cherchez pas. Il y a une explication à ça, c'est que l'hébreu ancien, c'est quand même très, très difficile à traduire, c'est-à-dire que il y a des phrases qu'on peut comprendre de plusieurs manières. Donc, il faut faire des choix. Moi, je n'ai pas trouvé, dans les traductions un texte satisfaisant, c'est-à-dire dont j'approuvais tous les choix. Donc, j'ai fait un peu de cuisine, mais rassurez-vous, c'est très, très près du texte hébreu. « Pourquoi, Seigneur, es-tu éloigné et caché quand la détresse est là ? Avec arrogance, le méchant harcèle les malheureux qui sont pris au piège de ses ruses. Il se félicite de ses projets et de ses vols. Il maudit et outrage le Seigneur. Dans son arrogance, il ne cherche pas. Dieu n'est pas là, voilà toute sa réflexion. Ses projets aboutissent toujours. Tes jugements sont trop hauts pour l'atteindre. Il écarte tous ses adversaires. Il se dit « Jamais je ne serai inquiété et le malheur ne m'atteindra pas ». Sa bouche est pleine de parjures, de ruses et de violences. Il n'a sur la langue que peine et néant. Il tend des embuscades dans les villages. Il tue l'innocent en cachette. Il tend des pièges aux malheureux. Il tend des embuscades en cachette comme un lion dans son repaire. Il tend des embuscades pour enlever les pauvres et il les enlève en les attirant dans son filet. Il rampe, il se cache et le malheureux tombe entre ses griffes. Il se dit « Dieu oublie, il est caché, il ne voit jamais rien ». Lève-toi, Seigneur Dieu, étends ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant t'outrage-t-il en se disant que tu ne le cherches pas ? Tu as vu, car tu regardes la peine et le chagrin pour les prendre dans ta main. Le malheureux et l'orphelin te font confiance, car tu les aides. Brise le pouvoir du méchant, et on recherchera sa méchanceté sans la trouver. Le Seigneur est roi pour l'éternité, et les nations disparaîtront de la terre. Seigneur, tu entends le désir des gens humbles. Tu as fermé leur cœur et ton oreille les écoute pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé afin que l'homme sur la terre ne soit plus jamais un tyran. » Ça pourrait s'intituler « Le méchant, sa vie, son œuvre », tellement on nous donne des détails sur ce qu'est la méchanceté. C'est un barbarisme, mais on devrait même dire la mauvaiseté, le fait d'être mauvais. Et là, on a affaire à quelqu'un qui est presque caricatural de méchanceté, mais qui en même temps concentre tout ce qu'on rencontre de mauvais dans l'humain. Parce que, vous l'avez entendu, vous l'avez lu en même temps que moi, c'est quelqu'un de prétentieux. Moi, rien ne m'atteint. C'est quelqu'un de sournois parce qu'il se cache, parce que le mot le plus employé dans ce qui sert à le décrire, c'est l'embuscade. Il est lâche parce qu'il s'en prend. Alors, le terme hébreu que j'ai traduit par malheureux, en fait, il veut aussi principalement dire faible. Il s'en prend à plus faible que lui. C'est quelqu'un de violent. Enfin, c'est quelqu'un qui, encore une fois, est emblématique de ce qu'on peut rencontrer de méchanceté dans le monde. Et puis surtout, il a, malheureusement pour lui, en tout cas apparemment, il a malheureusement pour lui ce qui est le moteur de la méchanceté, y compris jusqu'à notre époque, c'est-à-dire le sentiment d'impunité. Moi, je fais ce que je veux, je fais tout le mal que je veux et je ne suis jamais puni. Le sentiment d'impunité, enfin, on ne le mesure pas assez, mais je vous assure que quand on est professionnel, on sait à quel point l'illusion de l'impunité, ça permet ce qu'on appelle le passage à l'acte. On ne le dit pas forcément à chaque fois dans les médias, mais dès qu'il y a une catastrophe naturelle, ça s'accompagne de pillages. De pillages parce que quand un magasin se prend 1,50 m de flotte sur toute sa surface, De toute façon, c'est l'assurance qui va payer, et de toute façon, il n'y a plus personne, tellement c'est la panique. Et donc, si je vais chercher l'écran plat que j'aurais bien voulu m'acheter, mais je n'ai pas l'argent, je ne risque rien. Alors qu'en temps normal, je risque, donc je ne le fais pas. En temps normal, j'essaye pas de passer à la caisse sans payer. Mais dès qu'il y a une catastrophe, dès qu'il y a un tremblement de terre, dès qu'il y a un machin, là... Et effectivement, la remarque essentielle par rapport à la méchanceté, c'est Dieu n'est pas là. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit au verset 4. Alors, en hébreu... Alors, c'est pour ça que les options de traduction, verset 4. En hébreu, il y a juste Dieu et une négation. Donc, pas de Dieu. Alors, on est tenté, bon là, j'entre dans des détails un peu techniques, mais on est tenté, surtout par référence au psaume, parce que vous connaissez tous le début du psaume 14, ou 53, puisque les psaumes 14 et 53, c'est exactement les mêmes. On ne sait pas pourquoi il y a un doublon, mais c'est un doublon. Donc 14 et 53, même texte. Et on connaît tous l'ouverture du psaume 53 et 14, qui dit « le fou », enfin, oui, on peut traduire comme ça, « le fou », l'insensé dans les bibles, dans les traductions traditionnelles, se dit « Dieu n'existe pas ». Et là, effectivement... Dans ces psaumes-là, c'est un manifeste d'athéisme. C'est la négation de l'existence même de Dieu. Là, même si la formule en hébreu est la même, il faut préférer la traduction « Dieu n'est pas là ». Pourquoi est-ce qu'il faut préférer la traduction « Dieu n'est pas là » Eh bien, parce que si vous regardez le verset 11, voilà, Le même qui dit « Dieu n'est pas là » dit « Dieu oublie, il est caché, il ne voit jamais rien ». Vous ne dites pas ça de quelqu'un dont vous niez l'existence. Là, on n'est plus dans l'athéisme, on est dans l'agnosticisme. C'est-à-dire « Dieu est loin ». C'est pas « Dieu n'existe pas », c'est « Dieu s'en fout de tout ça ». L'existence des humains et le fait de savoir s'il y a des malheurs... ou des bonheurs, c'est pas son problème. Il est loin, il est caché, il ne voit rien. Et l'agnosticisme, c'est-à-dire une façon de dire peu importe que Dieu existe ou pas, la vraie question, la question centrale, et ça, nos contemporains l'expriment très majoritairement, la question c'est est-ce que c'est un Dieu proche, c'est-à-dire un Dieu qui intervient, un Dieu avec lequel on peut être en relation, ou est-ce que c'est un Dieu qui est tellement loin et qui se préoccupe tellement peu du sort des humains que du coup ça n'a plus d'importance, qu'il existe ou pas. La question de croire à Dieu, c'est-à-dire à l'existence de Dieu, n'a que peu d'importance. Moi qui y ai une forme de vie, certes très différente de la nôtre, mais une forme de vie sur la septième lune de la planète Zorglub, je m'en fous. De toute façon, je serais mort avant qu'il m'ait téléphoné, le gars. Nos contemporains ont de Dieu cette idée-là. Peut-être qu'il y a ce que les Américains appellent un dessein intelligent, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus difficile, compte tenu des progrès que fait la science, il devient, et donc de la découverte toujours plus grande de la perfection du réel, c'est-à-dire que tout ce qui existe, à commencer par nous d'ailleurs, est extraordinairement perfectionné, organisé, et donc il devient de plus en plus difficile de soutenir que tout ça s'est arrivé par hasard, et que tout ça, c'est le télescopage d'événements imprévus, imprévisibles et aléatoires. Donc effectivement, la raison, paradoxalement, nous pousse à dire c'est tellement complexe, c'est tellement bien organisé, tellement bien foutu pour que les planètes se télescopent, enfin, de ce qu'il y a d'infiniment grand à ce qu'il y a d'infiniment petit, c'est merveilleusement organisé, au point que on se dit, y a quand même quelqu'un derrière. Donc ça, j'allais dire que ça, une majorité de gens est prête à admettre ça. La question n'est pas là. Ça, c'est croire à Dieu. Croire en Dieu, c'est autre chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il est proche ou est-ce qu'il est lointain ? Est-ce que c'est un être tellement semblable à nous ? La vraie question, c'est quand la Bible dit « il nous a créés à son image », c'est-à-dire, du coup, capable de communiquer avec lui, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une arnaque absolue ? Et donc, la pétition du méchant, c'est pas croire à Dieu ou pas. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas ? Lui, il postule, parce que c'est sa culture, de toute façon. À cette époque-là, tout le monde croyait à Dieu. Lui, ce qu'il postule, c'est que Dieu est éloigné. Dieu est loin. Et Dieu ne se préoccupe pas des problèmes des hommes. Et dans les discussions que j'ai, c'est ça qui revient le plus souvent. S'il y avait un Dieu, alors, sous-entendu, s'il y avait un Dieu tel que celui auquel tu crois, il n'y aurait pas les guerres, les malheurs, les famines, les machins, les gens qui se noient dans la Méditerranée, et on a le catalogue de tous les malheurs de la Terre. Et on se dit, alors c'est la fameuse problématique qu'on pose en philosophie avec les trois affirmations, Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, le mal persiste, la logique les fait fonctionner par deux. C'est-à-dire, si Dieu est bon et qu'il est tout-puissant, le mal ne doit pas persister parce que sa volonté et sa capacité, c'est de l'anéantir. Si Dieu est bon et que le mal existe, ça veut dire qu'il n'est pas tout-puissant. Et si Dieu est tout-puissant et que le mal existe, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Mais les trois affirmations ensemble ne sont pas raisonnables, c'est-à-dire cohérentes les unes avec les autres. Ça, c'est ce que les philosophes, enfin, j'ai dit ça de manière très basique, mais c'est globalement ce que les philosophes contemporains développent. Et donc, lui, sa pétition, encore une fois, d'agnosticisme, c'est de dire, certes, Dieu existe, mais Dieu, il est caché et il ne voit jamais rien. Et paradoxalement, ça n'a de paradoxal qu'en apparence, le psalmiste le rejoint dans ce constat. Ils disent la même chose tous les deux. Ils n'en tirent pas les mêmes conséquences, mais ils disent la même chose tous les deux. Pourquoi, Seigneur, es-tu éloigné et caché quand la détresse est là ? C'est-à-dire que nous, à partir du moment où on s'identifie au psalmisme, et ça on en reparlera un peu plus tard, en tout cas le psalmiste, il ne nie pas la réalité. Bien sûr qu'il y a des malheurs, bien sûr que le monde n'est pas rose, être croyant, ça consiste surtout pas à nier la réalité et à dire « mais tout va bien, en fait, on a tendance à noircir. » Non, non, tout va pas bien. Tout va pas bien. Et beaucoup de choses vont mal. Le mal est à l'œuvre dans le monde, bien sûr. Bien sûr. Et le psalmiste fait le même constat. La question, je le disais, c'est... quelles conséquences il en tire ? Alors, la première conséquence, c'est de rejoindre celui qu'on appelle ici le méchant dans son agnosticisme et en disant, effectivement, finalement, ils ont raison, ces gens-là. Les gens qui nous disent, même de manière très basique, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas la souffrance des enfants. S'il y avait un Dieu bon et tout-puissant, mais... Ouvrez la télé et demandez-vous si on peut encore affirmer ça quand on a regardé un journal télévisé du début jusqu'à la fin. Enfin, pas en ce moment, parce qu'on parle que de foot, mais les autres jours. Donc, on peut rejoindre, c'est la première hypothèse, on peut rejoindre le méchant dans son agnosticisme en disant, C'est vrai, Dieu est caché, Dieu est loin, et Dieu ne voit rien de tout ça. En tout cas, il fait comme s'il ne le voyait pas, puisqu'il ne semble pas s'en préoccuper. On ne peut pas dire que les choses s'améliorent. Ça s'appelle... Alors, l'expression va vous choquer, c'est le titre d'un livre d'un auteur célèbre, Attica Meco, marseillais. Ça s'appelle « Perdre la foi ». Mais on a... Alors, encore une fois, il faut bien s'entendre sur les définitions. Perdre la foi, c'est pas arrêter de croire à Dieu, nier l'existence de Dieu. Il y en a qui se disent finalement Dieu n'existe pas, mais c'est pas la question. Perdre la foi, c'est face à un événement, et Daniel, puisque tout le monde le connaît, Daniel dont je parlais à l'instant, explique bien dans son livre que ce qu'il a déstabilisé sur le plan de la foi, alors pour le coup, c'est-à-dire de la confiance qu'il avait en Dieu, et là, on est exactement dans la même problématique que le psalmiste, c'est de dire, mais pourquoi ? Là, je ne te comprends plus. Je ne te comprends plus, et là, j'ai un vrai problème. Parce que le Dieu à qui je faisais confiance, le Dieu que je croyais proche, le Dieu en qui j'avais remis ma sécurité, ma confiance, c'est ça la foi. Ce Dieu-là, tout d'un coup, je le sens loin. Alors, ça, c'est effectivement une forme de perte de la foi, mais cette forme-là de perte de la foi, elle n'est pas forcément définitive. Enfin, si vous avez lu, et je pense qu'une majorité d'entre vous l'ont fait, le livre de Daniel, Daniel Coronès, pas Daniel. Hein, donc, il y a effectivement exactement posé cette problématique. Face à un événement qu'on juge inacceptable et face à l'apparente inertie de Dieu, tu n'as pas empêché ça. Pourquoi n'as-tu pas empêché ça ? Parce que tu es trop loin, parce que tu es caché, parce que tu vois rien. Ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude, c'est, et là je fais allusion au contenu tout entier du livre de Job, la deuxième attitude, c'est de dire, certes, il y a des malheurs, certes, effectivement, il nous tombe sur la cafetière des trucs inacceptables, impensables, et on se demande ce que Dieu fait là-dedans ou ce que Dieu ne fait pas, justement. La deuxième attitude, c'est de dire, mais après tout, on a ce qu'on mérite. Après tout, on est fondamentalement mauvais, on est fondamentalement attaché au mal, on produit du mal, et il y a un effet boomerang, c'est-à-dire que le mal qu'on produit, alors pas forcément directement, mais indirectement, le mal qu'on produit, on se le reprend dans la tronche d'une autre manière et quelques temps plus tard. Ça, c'est le discours, alors je ne vais pas vous faire une étude du livre de Job, parce que ça, là, du coup, Manu aurait mille fois raison, mais c'est le discours des amis de Job qui lui disent, mais attends, si tu as subi tous ces malheurs, et vous savez que Job, il a sa dose en la matière, puisque il part d'une situation de fortune, enfin, il a tout pour être heureux, matériellement, affectivement, machin, et tout ce qu'il a lui est enlevé, jusqu'à la santé, et il se retrouve avec plus rien, et malade, et voilà. Et ses amis, qui sont évidemment de bons conseils, lui disent, mais tu l'as mérité, ça, comme tout le monde. Le mal qu'on subit, on le mérite. Et lui, il dit non. Alors, effectivement, il y a cette tentation de la rétribution. C'est-à-dire, ben, effectivement, je subis le mal, mais après tout, moi aussi, je suis mauvais. Moi aussi, j'en fais du mal. Et donc, la justice de Dieu, en fait, elle est là. C'est-à-dire, je paye ce que je commets. Et puis, la troisième attitude, c'est justement l'attitude de Job. Et c'est aussi l'attitude du psalmiste. Et le mot le plus important de ce psaume, c'est le premier mot de ce psaume, pourquoi ? Je refuse cette logique-là. Ça ne veut pas dire je suis parfait. Ça veut dire je refuse la logique qui consiste à dire que le mal que je subis, c'est une rétribution et que je l'ai mérité. Non, pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, ça se passe ? Là, je ne vais pas plus loin parce que ça, c'est pour moi un obstacle. Pourquoi tu fais en sorte que ça arrive ? Pourquoi tu permets que ça arrive ? Pourquoi, Seigneur, es-tu éloigné et caché quand la détresse est là ? C'est le même pourquoi que celui de Job. Pourquoi tu me fais subir ça ? Pas parce que je l'ai mérité, non, ça. Et vous savez qu'à la fin du livre de Job, Dieu dira qui a raison, qui a tort sur ce terrain-là. Puisque Dieu dira aux amis de Job, vous n'avez pas dit des choses qui sont droites, qui sont correctes. Et donc, vous allez faire des sacrifices, bon, d'accord ? Et Job, mon serviteur, qui lui a dit des choses selon la vérité, il va prier pour vous, et pas l'inverse. Ça, les églises évangéliques ont des leçons à tirer de ça. Entre celui qui dit, là, il y a un problème, et celui qui répond, non, Dieu n'a pas de problème, c'est toi qui as un problème, et si tu poses des questions, c'est parce qu'il y a quelque chose chez toi qui ne va pas. C'est exactement la dialectique de Job et de ses amis. Et à qui est-ce que Dieu donne raison ? Pas au bon chrétien évangélique qui dit « quand on va bien en tant que chrétien, on ne se pose pas ce genre de questions », mais à l'autre, à celui qui dit « pourquoi ?», à celui qui ose écrire « j'ai perdu la foi, j'ai perdu la confiance en toi ». Il y a, vous le savez tous, un autre psaume qui commence par « pourquoi ?». C'est le psaume 22. Et qui est-ce qui reprend à son compte le « pourquoi » du psaume 22 ?« Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ?» C'est Jésus. Jésus qui, dans les derniers instants où il porte tout le mal commis par tous les hommes depuis l'origine, ne sent plus la proximité de Dieu. C'est ça le problème fondamental. Est-ce que dans tel ou tel événement, dans tel ou tel drame que je traverse, je sens ou pas la proximité de Dieu ? Et Jésus, parce qu'il porte le mal de l'humanité tout entière, ne peut plus sentir cette proximité. Et ça le fait hurler. Pourquoi ? Pourquoi t'es loin ? C'est pas j'ai perdu la croyance en ton existence, là. Comme si Jésus doutait de l'existence de son Père. Non. Il perd la proximité, j'allais dire la communion, mais c'est ça, il perd la relation en disant mais là il se passe quelque chose qui fait que notre relation est coupée. Alors, je reste sur mon exemple de Job. Job ne reçoit pas la vraie réponse. Nous, on l'a, la réponse. Pourquoi est-ce qu'il arrive tout ça à Job ? Parce que, et c'est dans le prologue du livre de Job, parce que un jour, le diable se pointe devant Dieu en disant « Oh, lui, il est bien, hein ? Mais par contre, il est bien parce que, évidemment, il a tout. Il a tout pour être heureux, il a la santé, il a le pognon, il a des beaux enfants, machin. Si tu commences à lui faire subir tous les malheurs possibles dans tous ces domaines-là, tu vas voir que sa fidélité et sa bonne conscience de croyant, elle va voler en éclats. Chiche. Ça, nous, on le sait. Job ne le sait pas et Job ne le saura jamais. Et en fait, le pourquoi... Alors, il y a deux choses auxquelles Dieu ne répond pas dans ce psaume. La première, c'est le pourquoi. Il y a deux pourquoi dans le psaume, hein. Verset 1er, « Pourquoi, Seigneur, es-tu éloigné et caché quand la détresse est là ?» verset 13, « Pourquoi le méchant t'outrage-t-il en se disant que tu ne le cherches pas ?» Trouvez-moi la réponse à ces deux questions dans le psaume, il n'y a pas. Il n'y a pas. Dieu ne répond pas à cette question-là, comme Dieu ne répond pas à la question de Job, pourquoi ? La question de la persistance du mal, c'est un mystère opaque. Être croyant, mettre sa confiance en Dieu, c'est accepter l'idée paradoxale, déraisonnable, que Dieu est bon, que Dieu est tout-puissant et que pourtant le mal persiste. Il laisse, la question de l'origine du mal n'est pas un problème si insurmontable que ça. La vraie question sans réponse, c'est la persistance du mal. Et Dieu va prendre le temps d'expliquer à Job, alors encore une fois, c'est difficile pour moi de me retenir de faire un exposé du livre de Job, tellement c'est passionnant, mais Dieu va prendre le temps d'expliquer à Job, non pas la réponse à son pourquoi, mais il va lui expliquer qu'il ne peut pas comprendre ça, et pourquoi il ne peut pas le comprendre. C'est la question, mais je survole ça, en plus vous m'avez déjà entendu parler de ça sans doute des dizaines de fois, c'est la question de la maîtrise du sens liée à la maîtrise du temps. C'est pour ça que Dieu dit à Job, t'étais pas là quand j'ai créé, c'est pour ça qu'il y a un grand laïus sur est-ce que t'étais là quand j'ai créé ça, évidemment Job n'était pas là, ça c'est clair. Et donc la conclusion qu'il faut en tirer, c'est, et ça c'est en lien aussi avec ce qui est écrit dans l'autre livre philosophique qui est Coëlette, enfin, ou l'Ecclésiaste selon la langue que vous parlez, et on dit seul celui qui maîtrise le temps maîtrise le sens. Et puisque nous on n'a pas la maîtrise du temps, j'en parlais tout à l'heure, on est nous enfermés dans le temps, on a un début et une fin, alors on n'a pas la maîtrise du sens et notamment on n'a pas accès à ça. Pourquoi est-ce que Dieu permet le mal? Et il y a une autre question, enfin question, c'est plus une interpellation qu'une question. Il y a autre chose qui est laissée sans réponse dans ce psaume, et c'est alors la prière, parce que il est humain le psalmiste. Et quand il a les mêmes réactions que nous, en tout cas les mêmes réactions que moi, et quand je n'y prends pas garde, j'ai tendance à vouloir du mal à ceux qui font le mal. Seigneur, casse-lui la gueule. Je vais quand même... Ne pas exagérer, le verset 15 que j'ai traduit par « brise le pouvoir du méchant », en hébreu c'est « casse-lui le bras ». Vraiment, c'est « casse le bras du méchant ». Bon, alors effectivement, le bras symbolique au sens de... donc « casse le bras du méchant », ça veut dire avec ta force, fais en sorte que sa force à lui soit anéantie. Et à cette prière-là, il n'y a pas non plus de réponse dans le psaume. Pareil, chercher l'endroit où Dieu anéantit violemment le méchant, il n'y a pas. Dieu ne promet pas cette justice qui est assez proche de la vengeance, il faut bien le dire, si on y regarde de plus près. Mais Dieu ne promet pas cette justice immédiate. Il dit dans les Béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. C'est-à-dire, ils auront satisfaction, mais ils auront satisfaction un jour. Un jour, la justice sera rendue. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés, ceux qu'on appelle les faibles ou les malheureux, là, effectivement, un jour, j'allais dire, tout ça va se payer. Un jour, la justice sera faite de manière... La justice, c'est encore une fois, pas la vengeance. Hein. Ce n'est pas heureux ceux qui ont faim et soif de vengeance. Ceux-là, ils ne seront pas rassasiés. Mais ceux qui veulent la justice, bien sûr que la justice va finir par régner. Mais cette justice immédiate à laquelle nous, on aspire, en disant tous ceux qui font du mal, tous ceux qui ont du sang sur les mains, il ne faut pas les laisser mourir dans leur lit, ces gens-là. Enfin, il faut que Dieu fasse quelque chose. Ce n'est pas ça son propos, ce n'est pas ça sa promesse. Et effectivement, pour un Adolf Hitler qui meurt prématurément, pour parler de gens qui ont le sang de millions de gens sur les... Il y a un Joseph Staline qui meurt dans son lit. Donc il n'y a pas de... La justice telle qu'on la voudrait, elle n'est pas pour maintenant. Alors Dieu ne répond pas comme ça. Est-ce que pour autant Dieu ne répond pas du tout ? Certainement pas. Et là, ce qui va être révélé au psalmiste, c'est ce qui nous est révélé aux uns et aux autres quand on traverse une épreuve, mais pas une petite épreuve, une vraie épreuve, une immense souffrance, quelque chose dont on se dit ça va définitivement rompre le lien, rompre la relation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre moi et Dieu après ça ? J'ai perdu la foi. Ça, c'est ce qu'on peut penser à un moment. Sauf que, dans ces moments-là, dans ce moment-là, il y a une promesse qui s'accomplit sans qu'on ait besoin de demander à Dieu de l'accomplir. Et ça, c'est ce qui nous est dit au verset 14. Tu as vu, et ça, il le dit par révélation, tu as vu parce que tu regardes la peine et le chagrin pour les prendre dans ta main. Le malheureux et l'orphelin te font confiance et tu les aides. Seigneur, tu entends le désir des gens humbles, tu affermis leur cœur et ton oreille les écoute. La promesse de Dieu, ce n'est pas « je vais exercer une justice immédiate » et donc le premier qui fait une connerie, je vais le flinguer d'un coup de tonnerre avec un éclair qui va le carboniser instantanément. Dieu ne nous promet pas ça. Mais par contre, à ceux que le psaume appelle les malheureux, c'est-à-dire les faibles, c'est-à-dire ceux qui subissent le mal, et le mal, on le subit, j'allais dire, tous, inévitablement, alors avec une intensité plus ou moins forte. Mais là, dans ces moments-là, il y a un miracle qui se produit, c'est que Dieu est présent. Dieu est présent et il nous fait très clairement comprendre que ce qu'on a subi, ce qui nous est arrivé, il l'a vu. Il l'a vu et il est à côté de nous pour nous aider à traverser l'épreuve. Et ça, c'est un réconfort. Enfin, instantanément, ça redonne la foi. Parce que ce que j'ai appelé tout à l'heure la perte de la foi, c'est la distance qu'on ressent. Pourquoi, Dieu, tu n'as rien fait pour éviter ça ? Eh bien, cette distance-là, c'est Dieu lui-même qui la parcourt dans son intégralité, parce que dans ces moments-là, on n'est pas capable de faire un pas vers lui. On ne veut plus faire un pas vers lui. Mais lui fait tout le trajet vers nous. Et il vient nous rejoindre et il nous dit, j'ai vu et je suis là. Et ça, c'est ce qui est exprimé. Alors, c'est vrai que c'est difficile à exprimer avec des mots humains, mais là, le psalmiste dit, tu prends ça dans ta main et tu aides le malheureux et l'orphelin et tu affermis le cœur. C'est-à-dire, tu viens vraiment nous rencontrer au plus profond de nous-mêmes pour nous dire, je suis là. Et la vraie promesse de Dieu, c'est ça. C'est pas « il ne vous arrivera rien ». C'est « plus ce qui va vous arriver sera difficile, plus l'obstacle sera apparemment insurmontable, plus la relation qu'on a ensemble vous semblera altérée, alors plus je vous ferai sentir que je suis là et que je suis là avec vous, à vos côtés. » Ça, il l'a promis. Et ça, alors, pardon pour cette prétention, mais j'en ai fait l'expérience. Et je sais que c'est vrai. On n'est pas dans la littérature, on n'est pas dans le théâtral. On est dans la réalité d'un Dieu qui est présent dans l'épreuve qui peut être ultime, parfois. Alors, je vais pas conclure là-dessus. Je vais conclure sur, parce que j'ai le goût de la provocation, je vais conclure sur une forme de provocation. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure, en fait, il y a deux personnes dans ce psaume qui font toutes les deux le constat de l'éloignement de Dieu au départ. Il y a le méchant, et lui, ça l'arrange que Dieu ne soit pas là, parce que ça lui permet de continuer ses petites affaires répréhensibles. Et puis, il y a le psalmiste que ça n'arrange pas du tout, et qui dit « mais moi, je veux pas rester là-dessus ». Moi, je voudrais que tu sois là. Et je te demande, pourquoi tu n'es pas là? Alors, vous m'avez entendu dire, la conclusion de tout ça, c'est Dieu répond, je suis là. Je suis avec le malheureux, je suis avec le faible, je suis avec celui qu'on a fait souffrir. Je suis à ses côtés, et il le sait et il le sent. Moi, la question que je pose en guise de conclusion et en guise de clin d'œil, parce que vous avez remarqué que c'est très hollywoodien comme psaume, hein, c'est les bons d'un côté, les méchants de l'autre, on est qui, nous, là-dedans? Ah ben, évidemment, on est les pauvres malheureux à qui les malheurs arrivent. Oui. Encore une fois, il y a deux personnages. Il y en a un qui est bien content que Dieu regarde ailleurs, et il y en a un autre que ça embête profondément. Est-ce que je suis tout le temps celui qui dit « Dieu, c'est dommage que tu ne regardes pas » Est-ce que de temps en temps, je n'ai pas été dans ma vie quelqu'un qui s'est dit, sans forcément se le dire très fort, mais juste la petite voix, vous savez, hein, qui se dit, à l'instant T, Dieu ne me regarde pas, et ça m'arrange plutôt. Je vais pas râler contre ça. Je ne vais pas lui dire, eh oh, regarde par là. Non, non, au contraire. Non, je ne suis pas mécontent qu'il soit un peu loin, un peu caché, et qu'il oublie, comme dit le psaume. Ça veut dire que... Je ne sais pas si vous adhérez à ce que je suis en train de dire. Je suis peut-être le seul à traverser en dehors des clous. Mais tout n'est pas tout noir et tout blanc. Nous ne sommes pas tout noir ou tout blanc. Nous sommes, certes, quand le malheur nous atteint, contents que Dieu soit là à nos côtés. Mais quand nous allons jusqu'au bout, sommes plutôt du côté du mal que du bien... on est aussi parfois content que Dieu regarde ailleurs. Mais le psaume nous apprend que c'est une illusion. Dieu nous voit tout le temps. Il voit le méchant tout le temps. Il voit le méchant en moi, enfin, ce qu'il y a de mauvais en moi, tout le temps. Et ce n'est pas simplement quand je suis la pauvre victime que Dieu est proche et qu'il me voit. C'est aussi quand je suis celui qui fait le mal. Alors, ça m'interpelle aussi. Mais ce que je retiens de ce psaume, c'est que, j'ai pas été mécontent que le hasard ou le sort ou qui vous voudrez me fasse étudier le psaume 10, c'est que y a là l'affirmation de la vraie présence de Dieu aux côtés de ceux qui souffrent. Et ça nous arrive à tous.